Cours de philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Jadas, le 9 juin 1989.
On me pose cette question. Descartes dit « le sens commun ». Est une puissance imaginative. Est-ce exact de dire que c'est l'imaginaire qui unifie les différents sens? Nous le verrons plus tard, hein? Mais c'est bien de le souligner tout de suite. Le sensus communi de Descartes n'est pas du tout le sensus communi d'Aristote. C'est très dommage, parce que on a continué de prendre le sens commun de Descartes, même le père Garrigou. Quand le père Garrigou-Lagrange dit que la philosophie réaliste, c'est la philosophie du sens commun, c'est pas vrai du tout. Vous voyez ? Alors, il faut comprendre, le sens commun de Descartes, c'est quelque chose de très particulier. C'est intéressant à noter. Je ne sais pas d'où ça vient. Vous n'entendez pas ? Évidemment, vous êtes en très mauvais poste pour vérifier si la voix poursuit jusque chez vous. Vous n'entendez pas dans le fond ? Rien du tout. Alors restez dans le nuage de la foi. Croyez, vous voyez bien que j'existe, mais vous n'entendez pas. Alors, ce qui montre que la vision va plus loin, vous voyez ? Ce qui est vrai, la vision va plus loin. Que Louis. Bon, alors nous allons continuer de voir rapidement, mon papa, voir tous les sens. C'est quand même très important de s'éveiller à la diversité des sens. C'est un exercice pratique, philosophique, très important. Voir qu'on a contact avec le réel, avec ce qui est, selon cinq modalités. C'est un fait, vous ne pouvez pas le nier. Cinq modalités. Alors, ce qui est très intéressant, vous me rappellerez si je l'oublie, c'est de voir ce conditionnement de ma connaissance au point de départ et dans l'intelligence. Vous voyez ? Les deux grands conditionnements, puisque c'est toujours la difficulté que nous avons, hein, c'est de dépasser notre manière de connaître. Saint Thomas dit très justement que l'erreur du néoplatonisme, c'est de confondre la manière de connaître avec ce qu'on connaît. Et ça, c'est très juste. Du fait même que Saint Thomas dit ça, Saint Thomas n'est pas néoplatonicien. Autrement, il ne le dirait pas. Il fait la critique du néoplatonisme en disant ça. Celui qui fait cette critique n'est plus néoplatonicien. Distinguer la manière dont on connaît et ce qui est connu. Premier conditionnement, c'est de distinguer ceci est de la manière dont je l'atteins. De le connaître. Je le connais selon cinq manières, cinq modalités. La vue, et puis tous les autres. Il y a une expérience propre de la vision. Ça, c'est sûr. Il y a une expérience propre de l'ouïe. Donc, cinq modalités par lesquelles j'atteins ceci est. La modalité comme telle, c'est-à-dire la vision, elle est toujours dans le devenir. Et ceci est au-delà du devenir. Donc, ceci montre tout de suite ces cinq modalités pour atteindre le réel. Ceci est. Et puis, deuxièmement, saisir au-dedans de moi-même la différence entre le jugement qui me met en contact avec ceci est et l'appréhension. L'appréhension, c'est la modalité de ma connaissance intellectuelle. Donc voilà les deux extrêmes des modalités de ma connaissance. Et c'est important et intéressant de bien saisir ces deux aspects. L'appréhension saisit tout, per modum, je le dis en latin parce que c'est saint Thomas qui le dit, per modum quiditatis. Vous voyez, il dit per modum, je saisis toujours per modum quiditatis, c'est l'appréhension. Et je dépasse le per modum quiditatis dans le jugement d'existence. Le jugement d'existence ne se termine pas à la quiddité. Alors, quiddité, comprenez bien ce que c'est. Hein. Quiddité est un terme que la philosophie même de Sartre a gardé. Vous trouvez quiddité dans Sartre. Quiddité, en latin, quiditas, ça vient toujours du grec, je vous le rappelle, hein. Le do di en einai. C'est un peu compliqué. Hein. C'est un mot inventé par Aristote. Aristote a inventé deux mots, quiditas en telekeia. C'est très intéressant. Vous voyez ? Alors, quiditas, quidité en telekeia. En telekeia. Et sans doute le mode d'énergeia. Comme quiditas est le mode de tohon. Alors je traduis en latin quod quid erat esse. Alors comme c'est un peu long, hein. Vous savez, dans les familles, quand il y en a trop long, on simplifie, n'est-ce pas ? Alors on a dit, quoi de quiderat esse quiditas ? Mais en bon latin, quiditas, ça ne signifie rien du tout. Demandez à votre professeur attendez, il n'y a qu'un seul. Quiditas. Demandez à votre professeur de latin, quiditas. Qu'est-ce que c'est quiditas ? C'est pas un mot latin. C'est un petit mot familier. Quod quiderat esse. Ah, ça veut dire quelque chose, quod quiderat esse. Demandez de traduire ça. Hein. J'aimerais savoir le résultat. Quod quiderat esse. En mettant un trait d'union comme on fait aujourd'hui. Vous voyez, le quod esse du quiderat. Quiderat. Dien. Dien. Ce qui demeure dans le fait d'exister. Ce qui demeure dans le fait d'exister. Pierre existe. Qu'est-ce qui demeure dans Pierre ? Il est homme. Ça demeure. Le reste, les cheveux, on peut les couper, c'est... Il peut perdre un bras, pas une jambe, il peut grossir, il peut maigrir, il peut tomber malade. Tout ça, c'est du contingent. Il y a quelque chose qui n'est pas. Dien. Ce qui demeure. Quiderat. Quiderat. Quid. Le quid. Tiesti. Le tiesti. Qu'est-ce qui demeure ? Et c'est pas est, c'est erat, l'imparfait. Parce que l'imparfait demeure. Qu'est-ce qui demeure dans Pierre? Il est homme. Oui, dans le fait d'exister, qu'est-ce qui demeure? C'est très joli, ça. Hein? Dans le fait d'exister, qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qu'il y a d'intelligible dans le fait d'exister? De Pierre, il est homme. Alors, ça, c'est la quiddité. Et alors, comme quiditas, on a traduit en latin, en français, quiddité. Oui. Alors on n'y reconnaît plus rien du tout. Reconnaissez dans quiddité tout yenainain. Vous n'y arriverez pas. Alors on traduit quiddité, essence, de façon classique, essence. C'est total, vous voyez. Mais l'imbécile du coin traduira total, essence, post-essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, le langage, comme c'est trompeur. Alors la philosophie, quand elle veut être la philosophie du langage, vous voyez où elle aboutit? Elle aboutit à total. C'est. Parce que total est français. Donc ça va. Si vous mettez autre chose, vous ne serez plus français. Alors vous ne prendriez pas essence. Essence s'oppose à exister. Et l'essence existe. Parce qu'on est tous avicéniens. Donc l'essence existe. En philosophie, l'essence n'est pas l'exister. Ce qui est capable d'exister. Vous opposez les deux. Et voyez, quiddité. Quiddité implique exister. Puisque le tout est nain. C'est le tien du tout Einstein. Dans le fait d'exister, dans le fait d'être, qu'est-ce qui demeure? Donc c'est pas du tout l'essence. Ça c'est la base scolastique qui a confondu et qui a oublié ça. Alors on a fait l'opposition entre essence et exister. Alors que l'essence se lie, comme on dirait dans un langage moderne, l'essence se lit dans un fond d'existence. Vous découvrez l'essence dans un fond d'exister, c'est bien évident. Parce que la quiddité, l'intelligibilité d'une chose se découvre à partir d'une réalité qui existe. Pour Aristote, la première interrogation: est-ce que cette chose existe? Puis ensuite, qu'est-ce que c'est? Et quand vous posez la question, qu'est-ce que c'est? Quiddité. Alors, dans la base scolastique, quelle est son essence? Mais il faut tout reprendre à l'origine si on veut comprendre quelque chose. Autrement, on n'y comprend rien, rien du tout. Il faut comprendre ce mot, totienainai. Vous voyez? Alors, vous comprenez que l'intelligence appréhende per modum quiditatis. L'intelligence appréhende toujours le tien, mais à partir du jugement d'existence. C'est pour ça que l'appréhension, c'est l'élément de ma connaissance intellectuelle, de ma pensée. C'est l'élément. Et ma pensée aboutit, ceci est le Toeinain. Vous voyez un peu les deux grands conditionnements de ma connaissance. Les sensations, les cinq sensations. J'ai donc cinq conditionnements. Dès le point de départ, il y a de quoi perdre complètement la raison. J'ai cinq conditionnements. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Cinq conditionnements dès le point de départ. Et un conditionnement intellectuel. Cinq conditionnements de l'homme. Et un conditionnement, mais très très fondamental, l'appréhension. C'est le conditionnement radical de toute ma vie intellectuelle. Parce que toute ma vie intellectuelle commence par une appréhension. qui implique une abstraction, qui implique le passage du singulier à l'universel. Mais ce cet universel est saisi à partir du singulier. D'où tout le gros problème hegelien, comment l'universel rejoint le singulier.
Oui. Est-ce que l'appréhension n'est pas déterminée par la raison? Est-ce qu'on trouverait alors aussi
oui, ça oui, tout à fait. C'est la raison. C'est parce que c'est une intelligence raisonnante qu'elle appréhende. Vous voyez?
On peut faire le rapport entre les cinq sens et les cinq prédicats.
Sûrement, à cause de ça. Il y a cinq prédicats, il y a cinq sens. Bon, les cinq prédicats, vous les savez tous. Hein, c'est une question d'examen, ça. Donc vous êtes tout à fait éveillés pour ça. Question d'examen. Les cinq prédicats. Il y a une chanson là-dessus. Cinq prédicats et les dix prédicaments. Il ne faut jamais oublier. Il y a les cinq prédicables et les dix prédicaments. Les cinq prédicables, le genre, la différence spécifique, l'espèce, le propre, l'accident. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et les dix prédicaments. Les dix prédicaments, vous les savez par cœur, ça. Hein, la substance, la qualité, la quantité, la relation, l'action, la passion, le temps, le lieu, le situs, l'habitus. Oui, 10/10. Que vous avez 10 prédicables et 5 prédicables. Si vous avez les 5 prédicables, c'est aussi 10 pour les amas. Il y a 5 sens, 5 prédicables et 10 prédicaments. Alors comment ça se multiplie? Le mystère. Parce que vous ne pouvez pas multiplier les 5 prédicaments pour aboutir aux 5 prédicables. Pour aboutir les cinq prédicats pour aboutir aux dix prédicaments, vous ne pouvez pas.
Donc vous pouvez expliquer le lien qu'il y a entre les cinq prédicats et les cinq sens.
Oui, oui, oui. Ça c'est de la critique. C'est de la critique. Les cinq prédicables, c'est les cinq modalités de l'universel. Cinq modalités de l'universel. L'universel se donne à moi. Toujours selon ces cinq prédicables, genre, différence spécifique. Et ces cinq prédicables n'existent parfaitement que pour la connaissance de l'homme. Mais l'homme est fait pour connaître l'homme. C'est pour ça qu'il y a cinq prédicables. Pour connaître le crapaud, il n'y a pas cinq prédicables. Pour connaître le crapaud, il n'y a que trois prédicables. Le genre, crapaud, animal, espèce animale. Le propre, ce que ne servait pas l'espèce du crapaud. Cherchez bien, vous ne la trouverez pas. La différence spécifique du crapaud, c'est qu'il saute de telle manière à la différence. Oui, c'est la démarche du crapaud. Vous distinguez un crapaud d'une grenouille par sa démarche. Et vous voyez que dans la vie commune, il y en a qui marchent, non pas comme des crapauds, et d'autres comme des grenouilles. Mais à peu près, il y a des démarches différentes. Quand on connaît très bien une communauté, ah, c'est lui qui passe. Mais il y a des démarches différentes. Mais la démarche du crapaud, la démarche de la grenouille, c'est le propre. C'est le propre du crapaud de marcher comme ça. C'est le propre de la grenouille de sauter comme ça. C'est vrai. Donc, vous voyez le genre, vous voyez le propre et vous voyez l'accident. L'accident, c'est qu'il y a une couleur différente du crapaud et de la grenouille. Comme c'est très calé, vous voyez tout de suite la différence de couleur. Et puis la différence de peau. La peau de la grenouille est un peu plus lisse que celle du crapaud. Le crapaud, c'est pas très lisse comme peau. Pas très agréable. Avoir dans votre assiette, oh là là. La grenouille, vous savez, oui, les cuisses de grenouille. Mais si on met des cuisses de crapaud, ça ne va pas très bien. Vous voyez tout de suite la différence entre les deux. C'est accidentel, ça. Tandis que la main démarche, ça montre toute la structure du crapaud et de la grenouille. Donc, cinq prédicats, vous pouvez tout de suite déterminer par rapport à l'homme. Le toucher, c'est toujours le genre. C'est fondamental. L'œil, c'est l'espèce, la détermination, l'homme. Mais dans l'évangile, l'aveugle commence à voir des arbres. Puis après, un homme. Vous voyez ça? Donc il passe d'une notion confuse à une notion claire. Notion déterminée. L'homme, c'est un homme. Espèce. Quand vous dites c'est un homme, espèce. Tandis que quand vous dites un genre, c'est un vivant, il se meut. Bien vous dites automobile, puisqu'il se meut. Puisque l'automobile, c'est comme l'homme, c'est comme l'animal, il se meut. Mais il se meut pas de la même manière. Il se meut d'une façon artificielle et non pas d'une façon tout à fait immanente. On n'arrivera jamais à réaliser un crapaud qui se meut. À vous ferez des jouets crapauds, mais en les remontant. Ils n'arriveront pas tout par eux-mêmes. Et vous ferez un simili, quelque chose de semblable. Puis vous arriverez à distinguer. Mais demandez à un gosse, c'est très amusant comme question, quand il voit un crapaud mécanique, puis un crapaud réel, demandez-lui s'il y a une différence. Tout de suite que le gosse distingue. Et les hommes, au bout d'un certain temps, ne distinguent plus la génération artificielle et la génération réelle. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez comment on arrive, au bout d'un certain temps, à perdre. Donc, l'œil, l'espèce, l'ouïe, c'est l'origine. L'origine, ce n'est pas uniquement le point de vue de l'accident. Je crois que ce sera une manière de distinguer le propre, ce qui se meut, ce qui ne se meut pas, par soi-même. Ça, c'est l'ouïe. C'est le mouvement.
Mais ce n'est pas plutôt l'ouïe à travers la parole qui rire la
Non, je crois que la différence spécifique, pour moi, c'est plus l'odorat. Vous voyez ? Et le goût est plus les accidents. Vous voyez ? Faisons attention, hein. Ne mettez pas direct. C'est très analogique. Mais il y a quelque chose, voilà ce qu'il faut se dire, il y a quelque chose. C'est intéressant à chercher, c'est une question de critique ça. On n'a jamais poussé la critique jusque-là. La critique de la connaissance. Oui. Alors que le réalisme permet de voir ça. Il y a cinq modalités d'abstraction. Puisqu'il y a cinq prédicables. Donc il y a cinq modalités d'abstraction. Les cinq prédicables montrent les cinq modes d'universel. D'universalité. Donc, l'universalité, ça tient par l'abstraction. Et je crois que le genre, c'est le toucher. La différence spécifique, la vue. La différence spécifique. Non, l'espèce, la vue. La différence spécifique, vous voyez ? Alors, vous voyez, c'est le goût. Oui, c'est le goût d'une certaine manière. Je pourrais dire ça, la différence spécifique. Mais le goût est beaucoup moins déterminé. Vous voyez ? On peut mettre le goût, moi je veux bien. Le goût. Et le propre, l'odorat. Et le point de vue, l'accident. Alors, vous pourriez mettre l'ouïe. Et vous voyez que c'est pas commode, hein. à travers les trois, il y a sûrement un sens qui est plus proche. Alors ça cherchait. Là, il y en a trois qui sont très nettes. Il y en a trois auxquelles, là, on peut très nettement dire. Le toucher, le genre, ça, oui. L'espèce, la vue, oui. Ça, c'est très net. Ces deux-là sont très nets. Et les trois autres, qu'est-ce qui est le plus déterminé? La différence spécifique, elle ne se connaît que pour l'homme. La seule différence spécifique que je connais, c'est celle de l'homme. Raisonnable. C'est pour ça qu'on l'aime tant. Et qu'une fois qu'on l'a découvert, on n'en sort plus. Parce que c'est très difficile. Vous ne pouvez pas découvrir la différence spécifique du crapaud. Non. La seule différence spécifique que vous connaissez, c'est celle de l'homme. Raisonnable. Alors, raisonnable, vous le saisissez par quel sens? Quel est le sens le plus proche du raisonnable? Là, vous allez me dire, c'est Louis par la voix. Oui, c'est vrai que la voix me permet d'écrire la différence spécifique. Donc, on mettrait Louis, là, par la voix. Vous voyez, je distingue la voix de l'homme du cri de l'animal. C'est peut-être la voix qui me fait comprendre la différence spécifique homme. Plus que tout le reste. Donc, le propre après, à l'odorat. Le propre distingue le point de vue de la finalité. Qu'est-ce qui caractérise un homme d'un animal? C'est que l'homme peut choisir sa finalité. Il a une vraie finalité par l'esprit. L'animal, c'est la finalité de l'espèce. Tandis que l'homme a une finalité individuelle. Alors, est-ce que c'est l'odorat ou est-ce que c'est le fait du goût? Vous voyez, c'est plus difficile. Hein? Ou est-ce que c'est l'accident? Bon, on mettrait peut-être le propre, le goût. Et l'accident, l'odorat. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça. Ce qui fait comprendre, hein, parce que nous avions vu que le goût, que nous avions vu que l'odorat était le sens de la finalité. Ça, c'est sûr. Dans une civilisation où l'odorat disparaît, comme la nôtre, dans notre civilisation, qu'est-ce qu'on pousse? La vision et le toucher encore. C'est la vision. Pour la science actuelle, il suffit de la vision. Uniquement de la vision. On regarde un tableau, puis on voit. C'est seulement ça. C'est très curieux dans le microscope électronique. Le seul sens objectif qui reste, la vision. Vous voyez, vous faites passer un produit pour que tout se colore d'une manière telle et vous distinguez. C'est sûr, c'est la vision qui est le sens qui demeure dans notre monde d'aujourd'hui. Nous sommes des gens visuels. La vision, c'est le point de vue de l'espèce. Et quand l'espèce, on ne la saisit pas, alors c'est tout de suite le propre. Et quand on a saisi le propre, et quand on a saisi les différences spécifiques, et qu'on veut saisir le propre par lui-même, je crois que c'est le goût. Donc en définitive, vous voyez, je mettrai comme ça, toucher le genre, différence spécifique, la différence spécifique, l'ouïe, à cause de la voix. L'espèce, la vue, le propre, l'odorat, le goût, et l'accident, l'odorat. Et c'est triste à dire, et que la finalité, et la plupart du temps, saisie de la manière la plus accidentelle. Ça explique comment c'est difficile de saisir la finalité. Alors réfléchissez là-dessus, c'est intéressant. C'est toujours intéressant, au plan critique, hein. C'est au plan critique ça. Je n'ai pas de connaissance directe de ça. Mais il est évident que les prédicables sont la structure première, élémentaire, de ma vie intellectuelle. Vous voyez, les prédicables se situent ici, hein, donc dans l'appréhension. C'est la structure de l'appréhension. Tandis que la structure du jugement m'est donnée par le jugement d'existence et la saisie des principes propres. Donc, la saisie des principes propres, il n'y en a pas tellement, hein. Qu'est-ce que vous avez comme principe propre en philosophie? Vous avez l'eidos, l'idéon. Vous avez ensuite la nature, forme, la nature matière. À travers cela, vous saisissez le point de vue de l'efficience et vous avez la finalité. Mais c'est indirect. L'efficience est saisie en premier lieu. À partir de l'efficience, la forme, la matière. Donc 1, 2, 3, 4. Ou, si vous voulez, 1, 2, non, je crois qu'il faut mettre 2, 3, 4. Quand vous avez la coopération, c'est le bien commun. Donc, c'est la finalité en premier lieu. L'efficience et la finalité. La coopération implique les deux. Je crois que c'est l'efficience en premier lieu, la finalité. Donc, vous avez ensuite le point de vue de l'amour d'amitié, la finalité. Il faudrait peut-être effacer ça. Ce serait mieux de prendre le point de vue génétique. Pour essayer de saisir comment nous saisissons l'ordre des principes. Donc, l'eidos demeure premier, cause exemplaire. Puis, l'amour d'amitié, la cause finale. Et par la cause finale, la cause efficiente, puis la cause formelle et la cause matérielle. Vous avez cet ordre-là. 1, 2, 3. Puis la coopération, vous avez cause efficiente en premier, cause formelle, cause finale, pardon, cause finale. Donc, dans l'ordre de la philosophie pratique, vous avez 1, 2, 3. Voilà les trois causes qui se donnent immédiatement. La cause matérielle est toujours donnée en second lieu, jamais en premier. Cause exemplaire, cause matérielle. Alors, la cause matérielle est indiquée quand même, il me semble, immédiatement ici. Cause matérielle avec la cause exemplaire. Et entre deux, la forme. D'abord la matière, puis la forme de l'œuvre. Vous voyez ? Donc on pourrait dire cause matérielle, cause exemplaire, cause matérielle, cause finale. Cause efficiente. Voilà. Voilà la structure du jugement. Structure du jugement, vous voyez, mettez là comme ça, si vous voulez. Cause forme, cause exemplaire, cause matérielle, cause formelle. Divisez les deux, grâce à la cause exemplaire. Cause finale, cause efficiente. Puis cause efficiente, cause finale. de ma vie intellectuelle au point de vue du jugement. Tout est commandé par la cause exemplaire. Mais ça explique tout l'idéalisme. Quand je suis fatigué, le conditionnement devient ma détermination. Cause exemplaire, cause matérielle et cause formelle, le couple. Ça, c'est toute la dialectique. La dialectique commandée par ça. Cause finale, que j'ai le temps, j'ai l'expérience par le point de vue de l'amour d'amitié, et je découvre la cause efficiente dans la cause finale. Cause formelle, ensuite. Cause efficiente, cause finale dans la coopération et cause formelle. Voilà, je crois que c'est la structure de ma vie intellectuelle au point de vue du jugement. Dans la connaissance pratique. Il y a deux structures. La structure de l'intellect pratique et la structure de l'intellect spéculatif. Et la structure de l'intellect spéculatif est commandée par la philosophie spéculative. Découverte de la nature. Cause efficiente. Puis, forme, matière. Et par la forme, la finalité, la fin. Philosophie du vivant. Cause efficiente. Première, finale. Cause matérielle. Philosophie première, cause formelle. Pardon, oui. Cause formelle en premier lieu. Cause formelle, cause finale. Aussi. Et c'est la cause finale qui est dernière. Je crois que c'est comme ça que nous devons comprendre la structure. Vous voyez, puisque je saisis la nature, philosophie du vivant, je saisis l'âme comme cause efficiente, comme cause formelle. Alors je peux discuter. Est-ce que dans la philosophie du vivant, en saisissant l'âme, je la saisis quand même comme cause formelle et cause efficiente, presque simultanée. Cause finale ensuite. En philosophie première, métaphysique, c'est la cause formelle, la substance et la fin. Puis, c'est très intéressant à saisir au point de vue structure de l'intellect spéculatif et l'intellect pratique, qui est commandé par la saisie des cinq causes. Cinq causes dans l'intellect pratique. Dans l'intellect spéculatif, quatre causes. Parce que je crois que dans l'intellect spéculatif, la cause exemplaire ne fait pas partie de la structure. Bon. Vous voyez ça à peu près, hein ? Comprenez les deux structures. C'est très intéressant ça pour tout le structuralisme. Parce que c'est dans la lumière de ça qu'on doit juger le structuralisme. Et voir que le structuralisme ne saisit pas du tout la structure d'intelligence. Nous pourrions nous faire une philosophie du structuralisme beaucoup plus intéressante, mais en critique, là. Et on devrait le faire pour répondre à la philosophie du structuralisme. C'est dans la critique qu'on doit faire ça. Et on voit comment la cause exemplaire est source et c'est le lieu, dans la cause exemplaire, où on saisit le mieux la différence entre le néoplatonisme et l'aristotélisme. Pour le néoplatonisme, la cause exemplaire est toujours première. Pour l'aristotélisme, la cause exemplaire joue un rôle important et premier dans l'art. Pas d'art sans cause exemplaire. Mais dès que je suis dans l'ordre moral, c'est plus la cause exemplaire. Dès que je suis dans l'ordre spéculatif, ce n'est plus la cause exemplaire. Bon, alors continuons nos moutons. N'est-ce pas ? Je vous disais la dernière fois que Louis avait quelque chose de très important à cause de la voix humaine. C'est évident que la voix est saisie par Louis. Vous n'avez jamais touché la voix. Je touche. Je vois. Il faut l'apocalypse pour que je me retourne pour voir la voix. Normalement, vous ne voyez pas la voix. Pourquoi, dans l'ordre de la révélation, on voit la voix ? Ça, ce serait très beau comme sujet au point de vue révélation, pour comprendre ce que c'est que la foi. Je vois la voix. On voit la voix dans la foi. L'Apocalypse nous le dit. Je me retournais pour voir la voix. Parce que justement, la foi, on ne voit rien. Donc on peut se retourner pour voir la voix. C'est fort de la foi. Dans la foi, vous ne voyez rien. Donc je peux me retourner pour voir la voix. En réalité, c'est la présence. Une voix est tellement forte. Et moi, j'ai une expérience de voir la voix qui n'est pas celle-là. C'était mon premier voyage en Grèce. C'était au pied du tombeau d'Agamemnon. C'est quelque chose d'extraordinaire. On était là, c'était la nuit. On voulait être le plus proche possible. Et on savait que pendant la journée, on nous aurait expulsés. Parce que je voulais dire, ma messe, tout au sommet de l'entrée de la culture grecque, de la culture égyptienne en Grèce. Alors je voulais dire, ma messe là, mais si les gardes m'avaient vu, expulsés. Donc il fallait venir à l'aurore et gagner là l'aurore. Alors on cherchait un lieu pour ce. Et alors c'était la nuit. Tout d'un coup, j'entends un âne qui braie. Je me retournais pour voir la voix. La nuit, un âne qui braie, d'émotion. D'émotion parce que quelqu'un arrive sur lui. Donc il m'avait senti. C'est mis à braire. C'était extraordinaire dans le silence de la nuit. Alors à ce moment-là, on se retourne pour voir. Parce qu'il y a une voix qui est tellement substantielle, et le cri de l'animal, qui a peur, c'est extraordinaire. Et il n'y a que l'âne qui fait ça. C'est propre à l'âne. Vous voyez, je découvre là le point de vue propre, la voix. L'ouïe. Entendre la voix. Et quand la voix est très très forte, on se retourne. Dans l'Apocalypse, on comprend très bien. On voit la voix. C'est la présence. Et je ne peux pas l'exprimer autrement. Même dans l'obscurité, c'était dans l'obscurité là. L'obscurité, non pas de la foi, mais analogiquement, métaphoriquement, l'obscurité. Dans l'obscurité, une voix extrêmement poignante. Poignant un âne qui braie. Pauvre bête. N'est-ce pas, c'est tout de suite ce qu'on dit. On est plein de pitié pour lui. Un chien qui aboie, c'est autre chose. Ce qui est l'irascible. Tandis qu'un âne qui braie, c'est la peur. Vous savez, je dis pauvre bête. On a envie de la caresser, de dire, mais je viens pas pour tuer. Je viens pour être présent près de toi. Je ne savais pas que tu étais là, mais je te découvre. Alors, on découvre la présence. Oui. Et la voix conduit à la présence. Ça, c'est très important. La voix humaine conduit à la présence. Il y a une force dans la voix qui conduit à la présence. C'est pour ça que les gens très angoissés ne peuvent pas rester dans le silence. Et vous découvrez le degré de l'angoisse de quelqu'un dans la mesure où il accepte la présence de quelqu'un dans le silence. C'est très curieux, ça. Ça, c'est très intéressant pour essayer de comprendre. Quand vous êtes auprès d'un malade angoissé, vous pouvez rester dans le silence, mais lui ne peut pas accepter le silence. L'angoisse refuse le silence et veut la voix et la présence, veut le toucher. Et le toucher ne suffit pas. Quand elle est très angoissée, il faut parler. C'est très curieux, ça. Quand quelqu'un est uniquement qui souffre et qui n'est pas angoissé, le toucher suffit pour manifester la présence. Mais quand quelqu'un est très angoissé, il faut la voix. Alors je me demande, voyez, si au fond, dans notre monde d'aujourd'hui, où la voix humaine est tellement abîmée, est terriblement abîmée, la voix humaine. On a remplacé la voix humaine par le tintamarre. Les gens, ils veulent du bruit. Et la voix humaine est étouffée par le bruit. Et alors, il n'y a plus la voix humaine. Tant qu'il y a la voix humaine, il n'y a pas l'angoisse. Et quand la voix humaine est donnée...